et de service aujourd'hui avec les enfants. Je te prie de l'accompagner, de mettre sur sa bouche, Seigneur, ce que tu veux que les enfants entendent, Seigneur. C'est si important. Tu tiens tellement à ce que les enfants te connaissent dès leur plus jeune âge. Seigneur, merci de bénir en tout cas leur moment et aussi, Seigneur, les nôtres. Je te prie pour nous, pour que tu disposes nos cœurs à recevoir ta parole, Seigneur. Tu nous aides à la comprendre par ton esprit, à en tirer toutes les applications pour notre vie, Seigneur. Et merci de nous l'avoir laissé, Seigneur. Nous avons tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, c'est dans ta parole. Merci. Merci vraiment à nous aider à en tirer le meilleur profit. À ta gloire, au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Donc, je continue donc le parcours de l'évangile de Marc. Et on va reprendre au chapitre 6, si vous voulez déjà chercher dans vos Bibles. Au chapitre 6. Et puis, je voudrais vous demander, est-ce que vous avez déjà essayé de plaire au plus grand nombre, de plaire à tout le monde? Est-ce que vous avez déjà essayé de satisfaire tout le monde dans votre travail, dans la famille peut-être? Essayez de contenter tout le monde. Et est-ce que vous en êtes revenu? Finalement, on se rend compte que c'est pas possible. Et il y a un texte là qui nous dit, qui va nous encourager, justement, pour prendre position. Voilà, donc je vais lire chapitre Marc, chapitre 6, et je ferai la lecture en deux fois. Je m'arrêterai premièrement au chapitre 13, et je reprendrai après au verset 14 jusqu'au verset 29. Ce sont deux épisodes. La parole de Dieu, si tel passage est après tel autre, c'est qu'il y a une raison, effectivement. Et je vous invite donc à prendre Marc, chapitre 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors, il appela les 12 et il commença à les envoyer deux à deux, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir deux tuniques. Puis il leur dit, « Dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. » Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Il chassait beaucoup de démons et les oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Jusqu'ici, pour le moment, la parole de Dieu. Hein. Amen. Un texte donc qui nous... Jésus n'était pas bien reçu dans sa patrie, il ne pouvait pas plaire à tout le monde. Et c'est ce que je vous propose de voir, que premièrement, nul n'est prophète en son pays. On connaît cette expression, hein, mais sait-on que cette expression vient de la Bible? Nul n'est prophète en son pays. Et deuxièmement, nous verrons, eh bien, quelle attitude avoir lorsque nous sommes rejetés en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Si tu es un chrétien, un enfant de Dieu, il t'est, je pense, arrivé d'être rejeté, comment as-tu réagi? Donc premièrement, eh bien, cette vérité que nul n'est prophète en son pays, cette vérité qu'il nous faut admettre, même si parfois on a du mal. Et Jésus, effectivement, en a fait l'expérience. Jésus, donc, pour resituer le contexte, il a... Après avoir délivré un démoniaque et il a ressuscité la fille de Jaïrus, le voilà qui revient dans sa patrie. Sa patrie, c'est là où il est né, en Galilée. Et plus particulièrement à Nazareth, là où il a grandi. Il revient avec ses disciples. Et il prêche donc dans la synagogue. Alors, Jésus, il est connu, Jésus, hein. Certains l'ont vu grandir, ses camarades de jeu ont joué avec lui. Il a certainement joué quand il était enfant avec ses camarades. Je ne le vois pas rester triste dans un coin. Il a sûrement joué, il a des amis qui ont grandi avec lui. Et puis, certains l'ont peut-être même vu naître. Bien sûr, ses parents. Ses parents. Et pour autant, eh bien, ses proches ne croyaient pas en lui. Jésus était connu comme qui ? Comme le fils du charpentier. Le fils du charpentier. Et il était connu comme le fils de Joseph, donc on connaissait sa famille. Mais on ne croyait pas, certains ne croyaient pas qu'il était le fils de Dieu. Malgré le fait qu'il ait opéré des miracles et des guérisons. Qu'il a opéré en Galilée. Eh bien, malgré cette réalité, ils ne croyaient pas en lui. On ne peut pas plaire à tout le monde. On a vu au chapitre 3 que même sa famille ne croyait pas en lui. Sa mère, ses frères ne croyaient pas en lui. D'où cette phrase bien connue de Jésus au verset 4. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Dit autrement, nul n'est prophète en son pays. Alors Jésus, déjà, il avait des raisons de se sentir seul, bien avant la croix. De se sentir incompris. Est-ce que vous, il vous est arrivé de vous sentir seul, incompris, si vous êtes chrétien, chrétienne? Et notamment par ceux qui vous connaissent, qui croient vous connaître, qui vous ont vu grandir, qui vous ont vu naître. Et ceux qui connaissent votre passé, mais ils n'ont pas vu, alors peut-être ils vous ont vu naître, mais ils n'ont pas vu une autre naissance, si c'est votre cas. La nouvelle naissance, lorsque vous êtes repenti de vos péchés et que vous avez accepté Jésus comme votre sauveur et comme votre Seigneur et votre Seigneur. Ils n'ont pas vu cette naissance intérieure, celle-là, cette naissance qui vient d'en haut. Alors, est-ce que nos proches nous connaissent aussi bien que ça? D'abord, non. Si vous êtes devenu chrétien, chrétienne, et que vos proches ne le sont pas, il y a forcément un décalage. Même si c'est votre famille biologique, on peut dire. Et vous avez un trésor que les autres n'ont pas, que peut-être même si vos frères et sœurs, vos parents ne sont pas chrétiens, bien, que eux n'ont pas, mais que vous avez ce trésor, c'est Jésus lui-même dans votre cœur. Alors oui, ça peut être dur à vivre, d'être incompris, d'être même méprisé. De n'être pas pris au sérieux. Déjà, ça fait mal quand c'est les gens de sa famille, déjà. Et puis peut-être aussi par des collègues de travail. Vous avez peut-être aussi subi des brimades, des moqueries de la part des incroyants. Et puis, quand vous êtes pris de haut, on peut dire, par des non-croyants, qui plus est, qui n'ont pas bonne réputation. Alors vraiment, ça c'est pas le summum, mais pas loin. Des gens qui n'ont pas bonne réputation et puis ils vous méprisent, ils vous prennent de haut. Eh bien, c'était le cas. Nazareth, c'était une ville qui n'avait pas bonne réputation. Nazareth, où est né Jésus, n'avait pas bonne réputation. On le sait parce que un de ceux qui allait devenir apôtre, donc Nathanaël, quand il a su que Jésus venait de Nazareth, il a dit, en Jean, dans l'évangile de Jean, il a dit, chapitre 1, verset 46, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Donc Nazareth, c'était pas une ville qui avait bonne réputation. Aujourd'hui, il y a des villes qui n'ont pas bonne réputation. Je citerai Marseille, il y a des bonnes choses, mais il y a aussi beaucoup de mauvaises choses. Trafic de drogue et beaucoup de... Et les choses ne se sont pas arrangées. Jésus est né dans ce contexte-là. Il était dans une ville qui n'avait pas bonne réputation. Et les gens le méprisaient. Et ils se trompaient. Ils se trompaient lourdement. Alors attention, on peut se tromper. On peut se tromper quand on croit connaître une personne... Et on fait attention aux rumeurs, ce qu'on a entendu sur lui, sur elle, sans la connaître au final, sans avoir pris le temps de chercher à connaître la personne, par une relation amicale. Attention aux rumeurs, attention, parce qu'on peut croiser des missionnaires sans même s'en rendre compte, des missionnaires qui n'en ont pas l'air, des hommes, des femmes de Dieu. On peut se tromper. Jésus n'était pas compris. Comment un charpentier qui n'a pas fait d'études avec les rabbins est-il capable d'une telle sagesse? Comment est-il capable de faire des miracles? Et le verset 3 nous dit que Jésus était une occasion de chute. Autrement dit, une pierre d'achoppement. Une occasion de chute. Parce qu'il n'avait pas d'excuses. Il n'avait pas d'excuses. Il reconnaissait la sagesse de Jésus. Non seulement ça, mais il disait que la sagesse lui avait été donnée. Mais alors par qui? Il reconnaissait aussi ses miracles. Par sa propre main. Ils y croyaient à ces miracles. Ils entendaient sa sagesse. Mais ils ne croyaient pas en lui. Ils n'avaient aucune excuse. Parce que s'ils ne croient pas que cela vient de Dieu, ils sous-entendent que sa sagesse et ses miracles viennent du diable. Et aujourd'hui, c'est courant, malheureusement, de trouver des gens qui ne veulent pas croire en Dieu, mais qui croient au diable. Et c'est grave. Hier, aux informations, j'ai entendu la nouvelle comme quoi près de 20 millions de Français, à peu près le tiers de la population française, voient chaque année des médiums et des voyants. Une d'entre elles avait été interviewée en disant qu'elle avait un don. Ok, c'est un don. Mais la question n'a pas été posée. Qui lui a donné ce don? Il y a des choses qui viennent de Dieu et il y a des choses qui viennent du diable. Le verset 5 nous dit, et c'est étonnant si on s'arrête sur ce verset, Jésus, il ne put faire là aucun miracle. Il n'a pas pu. Étonnant. Pouvoir du verbe pu, du verbe pouvoir et miracle ont la même racine en grec, la racine qui a donné le mot dynamo. Et dynamo veut dire puissance, pouvoir, miracle. C'est la même racine, puissance. Littéralement, ça veut dire que Jésus, il n'avait pas la puissance pour faire des actes puissants. Étonnant. Jésus est Dieu. Il est le Créateur. Il est le Fils de Dieu. Et je crois que là, on a beaucoup à apprendre. Parfois, on a soif de miracles. Et d'ailleurs, le verset 6, eh bien, nous dit que Jésus lui-même s'étonnait de leur incrédulité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'incrédulité peut faire barrage au miracle, à la puissance de Dieu. L'incrédulité peut faire barrage au miracle, à la puissance divine, à la grâce de Dieu. On a ici une vérité importante. Les miracles ne sont pas des actes magiques pour impressionner, comme beaucoup attendaient de Jésus. Fais-nous un miracle là. Non. Le problème, c'est qu'ils ne croyaient pas en lui. Les miracles ne sont pas des actes magiques pour impressionner, mais les miracles sont directement liés à la foi des gens. Oui, Jésus peut encore faire des miracles aujourd'hui. Alors, si tu n'en vois pas, c'est pas que tu n'as pas la foi, forcément. Il fait ce qu'il veut, il reste souverain, il peut faire le miracle de guérir quelqu'un. Mais en tout cas, quelqu'un qui n'a pas la foi, il ne verra pas de miracle, sauf ceux qui auront lieu à la fin des temps, lorsque Jésus va revenir pour juger le monde, à la fin, pour juger les incroyants. Là, il y aura des miracles, ce seront les miracles des jugements divins qu'ils verront de leurs propres yeux. Jésus, donc, ne put faire là aucun miracle. Parce qu'on ne croyait pas en lui. Alors, mon deuxième point, que faire en cas de rejet, lorsque on ne vous prend pas au sérieux? Que faire quand vous êtes face à des proches, que ce soit de la famille, que ce soit des collègues de travail, des voisins peut-être, qui ne vous prennent pas au sérieux, qui savent que vous êtes croyant, mais eux ne veulent pas croire? Eh bien, on doit prendre garde à ce que nos discussions sur la foi ne deviennent pas pour eux des pierres d'achoppement. Parce que, peut-être vous l'avez vécu, dans une discussion sur la foi, vous voulez témoigner, et puis ça commence à s'échauffer. Nous, on l'a vécu parfois à Noël, je me rappelle, en 2011. Hein. Et c'était difficile, parce que là, on était face à des incroyants, dans notre famille. Et donc, là, il fallait faire très attention à ne pas tomber dans le piège. Le piège de soi-même s'enflammer, d'en vouloir aux autres. Pourquoi? Parce que dans une discussion animée, enflammée, les incroyants peuvent blasphémer le Seigneur. Ils peuvent avoir des paroles qu'ils regretteraient par la suite. Et nous faisons attention dans notre comportement à ne pas les pousser à blasphémer. S'ils ne croient pas, nous ne pouvons pas, nous, les convaincre. C'est que Dieu qui peut. Alors parfois, mieux vaut ne pas insister par nos paroles, tout en sachant prendre position. Afficher la couleur. Je suis chrétien. Même avec vos proches. On ne peut pas plaire à tout le monde, même à nos proches et à ceux qui nous ont connus avant notre conversion. Et parfois même, on peut même être tenté de leur cacher notre foi parce qu'on a peur d'être rejeté. On a peut-être été rejeté une fois et on ne se dit plus jamais ça. Est-ce que c'est la bonne attitude? Un musulman qui devient chrétien Il sait qu'il risque d'être renié par sa propre famille, par ses parents même, et de souffrir. Et pour autant, eh bien, il faut bien faire un choix. Et il nous est demandé de quoi faire, de prendre position. Jésus a dit, en Luc 14, verset 26, « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas, ça veut dire s'il ne me préfère pas à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, s'il ne hait pas sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Devenir chrétien, oui, ça a un coût. Ça engendre des souffrances. C'est pas étonnant, mais Jésus est là. Il nous soutient. Alors que faire si on est face à des... Et principalement, je pense à ceux de notre famille qui ne sont pas croyants. On a essayé de leur témoigner plusieurs fois, ils nous ont rejetés. Que faire? On aimerait tellement qu'ils connaissent le Seigneur. Eh bien, ce texte est là pour nous aider. Parce que la suite nous dit, nous inspire justement ce qu'il faut faire. Si nous, nous ne pouvons pas. Et clairement, il y a des fois où nous ne pouvons pas. D'autres pourront. Nous pouvons prier que le Seigneur mette sur leur route d'autres frères et sœurs chrétiens qui vont leur témoigner. Si nous, ils ne nous écoutent pas, peut-être qu'eux, ils les écouteront. Ils les écouteront. Donc continuons de prier pour eux. Il y a de l'espoir. Ici, il y a les demi-frères de Jésus qui sont cités. Il y en a au moins deux que nous connaissons. Il s'agit de Jacques et de Jude. Au début, on l'a vu, la mère de Jésus et ses frères ne croyaient pas en lui. Et pourtant, Jacques et Jude, ils sont connus. Pourquoi? Parce qu'ils ont écrit chacun leur épître qui est dans la Bible. Ils ont fini par croire au Seigneur. Ils sont devenus croyants. Alors si ceux de notre entourage ne nous écoutent pas, peut-être écouteront-ils quelqu'un d'autre que le Seigneur va leur envoyer. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est prier que le Seigneur leur envoie quelqu'un sur leur route, que eux, qu'ils écouteront eux. Et c'est ce qui se passe ici. C'est à ce moment-là que Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Pour la première fois, c'est la première fois que Jésus va envoyer ses disciples dans sa patrie où lui-même n'a pas été reçu. C'est la première fois qu'il va les envoyer sans lui. Il ne va pas les accompagner, il va les envoyer. Les 12. Il va les envoyer en mission, dans sa patrie, là où il a été mal reçu. On peut dire, formation pratique pour les disciples. Jésus, ils ont vu Jésus faire, et maintenant c'est à eux. Première tournée de prédication dans le cadre de leur formation pratique. Et là, eh bien, les conseils de Jésus, bien sûr, ont beaucoup à nous apprendre sur nous, notre manière d'évangéliser. Leur mission, c'était d'aller prêcher la repentance et de croire. Ils devaient aller, et pour cela, ils ne devaient pas s'encombrer. Ils ne devaient pas s'encombrer, ils devaient être légers. Ils devaient être légers parce qu'ils allaient beaucoup marcher. Et qu'est-ce qu'ils avaient pour tout bagage? Ils n'avaient que leurs vêtements, des sandales, et ils avaient leur foi. Ils avaient leur foi. Voilà alors tout le bagage. Pourquoi? Pourquoi un équipement aussi léger? Nous, on aurait tendance à prendre l'équipement lourd. Tous les commentaires, et puis toute la manière de parler aux gens, de quelles questions leur poser. Rien de tout ça. Devait être léger. Et Jésus leur a même dit de chausser de simples sandales. Alors, je me suis dit, les sandales, c'était le soulier de l'époque, mais la sandale, c'était vraiment une semelle avec une lanière. C'était moins bien qu'une paire de chaussures. Il existait des chaussures à l'époque, mais Jésus leur dit d'aller en sandales. Ils devaient être légers. Pourquoi un tel équipement? Eh bien, parce que les gens... Jésus voulait et il veut. Qu'est-ce que Jésus veut, le Seigneur? C'est que lorsque nous parlons de lui, que les gens fassent attention, non pas à la prédication, non pas, pardon, à notre apparence, non pas à la personne. Jésus veut qu'on fasse attention à notre message. À notre message. Donc il ne devait pas avoir une apparence extraordinaire, les 12. On devait faire attention à leur prédication et non pas à leur apparence. Et non pas à leur apparence, il n'y avait rien dans leur apparence, une apparence très dépouillée. Et qu'est-ce qui se passerait? Les gens, en recevant les disciples, les 12, en voyant quelqu'un d'aussi habillé aussi de façon dépouillée, eh bien, on est plus enclin à inviter quelqu'un à rentrer dans sa maison, on est plus enclin à exercer l'hospitalité. Alors que si on est complètement équipés, on ne manque de rien. Les gens peuvent peut-être même les mettre mal à l'aise. Mais là, ils sont en position, et c'est une grande leçon pour nous. Les apôtres sont en position de recevoir. Ils sont en position de recevoir, ils sont en position d'humilité. Alors qu'ils ont le plus grand message à donner, ils sont en position d'humilité. Pour mieux les disposer à donner le message le plus important qui soit. Quelqu'un qui va voir leur apparence aura peut-être mieux tendance à les recevoir dans leur maison. Venez rentrer. Il pleut là, vous avez juste un manteau. Venez rentrer, vous abriter. Et puis de partir sans équipement, ni provision, ça va aussi faire grandir leur foi, parce qu'ils sont complètement dépendants du Seigneur. Une formation pratique donc qui va les faire grandir dans leur foi. Ils vont vivre et voir la provision du Seigneur pour leurs besoins. Qu'est-ce que nous apprenons aussi dans cet envoi, qui est le premier, l'envoi missionnaire, lorsque Jésus envoie ses apôtres? Eh bien, Jésus les envoie deux à deux. Et à deux, c'est mieux. Pourquoi? Parce que, il les envoie deux à deux pour que la prédication de l'un soit confirmée par l'autre. Ils sont deux, ils sont d'accord, ils croient la même chose. Ils auront plus de poids. Et c'est plus facile, quand on y va à deux, pour témoigner. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des évangélisations, peut-être dans des campagnes d'évangélisation. Et bien sûr, on y va en équipe très souvent. Et puis aussi, quand on y va deux à deux, pendant que l'un parle, qu'est-ce que peut faire l'autre? Il peut prier pour soutenir son frère, sa sœur. Il peut prier. Et ils peuvent se soutenir donc mutuellement. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui, si certains vont recevoir leur message, s'ils vont les héberger, s'ils vont les accueillir, d'autres en revanche ne vont pas les accueillir, ils vont même les rejeter. Et dans ce cas-là, et c'est bon pour nous aussi de nous rappeler, qu'est-ce que les gens rejettent quand on est rejeté? C'est pas nous qui rejettent, c'est notre message. Parce que d'autres reçoivent le message, donc c'est pas notre personne que les gens rejettent, c'est le message. Et c'est bon, parce que ça nous aide à supporter lorsqu'il y a du rejet. En tout cas, Jésus leur donne une consigne claire. Aller ailleurs, tout en secouant la poussière de leurs pieds. Pourquoi perdre son temps avec des gens qui ne veulent pas écouter, alors que d'autres, ils n'attendent que ça. Ils attendent, ils sont tout préparés. Dans l'évangélisation, on est complètement dépendant du Seigneur. Voilà donc, premier envoi des douze, sans leur maître, et sans la présence corporelle de leur maître, mais ils sont revêtus de la même puissance. Eh bien, que vont faire les disciples? Dans la patrie où Jésus a été rejeté, ils vont faire les mêmes miracles que lui a fait. Ils vont enseigner la même chose, la repentance. Ils vont aussi chasser des démons. Verset 12-13, ils vont prêcher la repentance, ils vont chasser les démons, ils vont guérir des malades. C'est exactement ce que Jésus a fait quand il a commencé son ministère. On l'a vu dans les chapitres précédents. Et c'est lors de cette première mission que les disciples vont être appelés pour la première fois des apôtres. Apôtres, ça veut dire envoyés. On le voit au verset 30 de ce même chapitre. Je continue la deuxième partie de ce texte, je continue la lecture, on s'est arrêté au verset 14, et je vais lire jusqu'au verset 29. Et rappelons-nous cette vérité qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, parce que là encore, ça va être le cas dans une autre situation. Marc 6, 14. Le roi Hérode entendit parler de Jésus dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient c'est Élie et d'autres disaient c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait. Elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait, Et, après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, il l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva. Lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je ? » Et sa mère lui répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé. Mais, à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Jusqu'ici donc notre lecture. Un texte encore qui nous montre qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Alors, eh bien, il faut prendre position. Il faut prendre position. Ça, c'est la conséquence directe. On ne peut pas plaire à tout le monde, alors il faut prendre position. La réputation donc de Jésus s'est étendue en Galilée au point que son nom était devenu célèbre. Et sa réputation est parvenue aux oreilles du roi, oui, il était gouverneur, Antipas. Hérode Antipas. Il était tétrarque, ça veut dire quoi tétrarque ? Ça veut dire qu'il était le roi d'un quart du royaume et il était sous l'autorité de Rome. Et il ne faut pas confondre Hérode Antipas avec Hérode le Grand. Hérode Antipas, c'était le fils d'Hérode le Grand. Et Hérode le Grand, c'est lui qui avait, à l'origine du massacre des enfants, du massacre des innocents, lorsque Jésus était né, il a fait massacrer les enfants de moins de 2 ans. Ça, c'était son père qui avait fait cela. Or là, c'est son fils, il s'agit de son fils, Hérode Antipas. Et autant le père, Hérode le Grand, était cruel pour avoir tué des enfants de moins de 2 ans, autant ici, que voit-on sur le fils, autant son père était cruel, autant lui, il est lâche. Il est lâche, comme on va le voir. Hérode n'a pas la conscience tranquille. Il est même épouvanté. Il a entendu parler de Jésus, mais il croit que c'est Jean-Baptiste qui l'a fait décapiter. Il est épouvanté. Il croit que c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. Il sait, Hérode, il sait très bien qu'il a fait taire la voix d'un homme de Dieu. Alors, il y a des raisons de s'inquiéter. Un homme de Dieu que Jésus a qualifié de plus grand des prophètes. De plus qu'un prophète. Plus qu'un prophète. Il a dit de plus. Plus qu'un prophète. Hérode le croit ressuscité, ça veut dire que Hérode croit à la résurrection, ce qui n'arrange pas son cas. Ça ne fait que confirmer sa culpabilité devant Dieu. Alors, que s'est-il passé ? Jean-Baptiste lui avait reproché d'avoir pris la femme de son frère, sa belle-sœur. Son frère, c'était Philippe, et sa femme, c'était Hérodias. Et donc, la loi juive interdisait à quelqu'un de prendre la femme de son frère. Lévitique, chapitre 18, verset 16 et 20, verset 21, si vous voulez la référence. Et Hérodias aurait bien aimé voir faire mourir Jean-Baptiste. Mais Hérode, malgré le fait que Jean-Baptiste l'ait repris, dans son péché, Hérode, il aimait Jean-Baptiste. Et il ne le fera pas mourir, il ne fera que le faire mettre en prison. Parce que malgré ses reproches, il le craignait. Et même il le protégeait, nous dit le texte. Il aimait l'entendre et le reconnaissait comme un homme juste et saint. Verset 20, vous avez toutes ses qualités au verset 20. Mais le problème, Hérode, il a un problème. Hérode, il est dominé par ses passions. Il est dominé par ses passions, il n'arrive pas à se maîtriser. Il est faible de caractère. Et sa faiblesse va causer la perte de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui se passe ? Là, il fête l'anniversaire de sa naissance. Et là, il ne s'agissait pas de la nouvelle naissance, il s'agissait de la première naissance. Il fête un anniversaire devant des convives de Marc, des invités de Marc, des invités importants. Il a organisé un banquet. Et qu'est-ce qui se passe? Il a vu danser la fille d'Hérodias. Et elle lui a tellement plu en la voyant danser qu'il lui a fait une promesse inconsidérée sous l'effet de sa passion. Devant tous ses invités. Et il lui a promis qu'il lui accorderait ce qu'elle demanderait, fût-ce jusqu'à la moitié de son royaume. Alors elle ne décide pas d'elle-même, elle va voir sa maman, Hérodias, qui voit là l'occasion rêvée d'avoir enfin ce qu'elle veut, la tête de Jean-Baptiste. Sa fille, eh bien, elle va s'empresser de demander à Hérode la tête de Jean-Baptiste. Et que va faire Hérode? Le roi Hérode, il va lui céder. Les deux femmes auront ce qu'elles ont voulu, la tête de Jean-Baptiste qui plus est sur un plateau. On ne peut pas plaire à tout le monde. Hérode, il était partagé. Il était partagé entre sa sympathie pour Jean-Baptiste, il aimait Jean-Baptiste, mais même si celui-ci lui avait fait le reproche de son péché, il l'aimait, il le reconnaissait comme un homme de Dieu. Mais Hérode était partagé entre eux. Sa sympathie pour Jean-Baptiste et ses propres passions qui le dominaient. Et il était partagé entre sa sympathie pour Jean-Baptiste et tenir sa promesse. Là, il a été devant un choix. Il a été devant un choix crucial. Est-ce qu'il fallait qu'il tienne la promesse qu'il avait faite devant tous les invités? J'imagine qu'il a dû, le texte ne le dit pas, il a dû suer pendant ce moment-là. Je pense que sa sueur a dû couler quand il s'est rendu compte de sa promesse. Préserver la vie de Jean-Baptiste, qu'il aime, ou tenir sa promesse? Un choix très difficile, promesse qu'il a faite devant témoin. Alors, il s'est cru obligé de tenir sa promesse, alors que sa conscience lui dictait le contraire. Résultat, après que Jean-Baptiste soit décapité, eh bien, il sera tourmenté. Il sera tourmenté par sa même conscience qui lui dictait de ne pas le faire. Puisque là, il est vraiment angoissé, épouvanté. Il croyait que Jean-Baptiste était ressuscité en voyant Jésus. Il est tourmenté par sa conscience parce qu'il n'a pas su. Il n'a pas su prendre position. Qu'est-ce que nous apprend cette histoire? Est-ce qu'il vous est arrivé de faire une promesse sans réfléchir? Peut-être à votre conjoint, peut-être à vos enfants, peut-être à vos collègues. Par enthousiasme, vous étiez vraiment dans l'euphorie. Mais une promesse que vous avez ensuite regrettée amèrement. Et une question se pose là. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi je me la suis posée souvent. Doit-on toujours tenir ses promesses, quelles qu'elles soient? Doit-on toujours faire ce qu'on dit? Est-ce que c'est une marque de faiblesse que de revenir sur une décision qu'on sait être mauvaise? Est-ce que c'est une marque de faiblesse que de revenir sur une mauvaise décision? Une mauvaise décision parce que ça implique du mensonge, des compromis. On s'est rendu compte que c'est une mauvaise décision. Alors qu'est-ce que ces textes nous apprennent? Déjà qu'il faut réfléchir avant de parler. Il faut réfléchir avant de s'engager dans une promesse. Il faut prendre du temps. Il faut réfléchir avant de parler. Ça nous évitera de nous retrouver piégés par nos propres paroles. Attention à nos paroles. David, le roi David a dit dans le psaume 39, verset 2, « Je garderai mes voies de peur de pécher. Je garderai mes voies de peur de pécher par ma langue. Je garderai un frein à ma bouche. » Attention à notre bouche. Parce que, et la Bible le dit dans l'épître de Jacques, la langue c'est un petit membre, mais elle peut emmener loin. Elle peut emmener à faire des choses qu'on regrette par la suite. Cette histoire nous apprend aussi, donc premièrement, qu'il faut réfléchir avant de parler. Elle nous apprend aussi que si on est devant un choix difficile, eh bien on peut demander un délai de réflexion. Ce que n'a pas pris le roi Hérode. Il était roi, il aurait pu demander un délai de réflexion à Hérodias. Il n'a pas fait, il était quand même le roi. Temporiser quand vous n'êtes pas sûr. Plutôt que de céder à une mauvaise pression. Mais la fille d'Hérodias, elle a su y faire. parce qu'elle a exigé immédiatement la tête de Jean-Baptiste, au cas où Hérode changerait d'avis. Non, 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 là, Hérode, il était chaud. C'était maintenant, donne-moi maintenant la tête de Jean-Baptiste, et Hérode, il s'est exécuté. Sur le champ, il a demandé à faire décapiter la tête de Jean-Baptiste. À faire décapiter Jean-Baptiste. Deuxièmement, donc, temporisons quand on n'est pas sûr devant une décision qui nous fait hésiter plutôt que de prendre une décision n'importe comment. Et puis cette histoire, je crois que c'est le point capital de ce récit, cette histoire nous apprend aussi qu'il vaut mieux prendre position plutôt que d'être indécis. Quitte à perdre la face, même si on s'est trompé, il vaut mieux prendre position. Revenir sur une mauvaise décision plutôt que d'être indécis. Quitte à perdre la face, même si on s'est trompé. Imaginons Hérode. Imaginons Hérode s'il était revenu sur sa promesse. S'il avait demandé à Hérodias, bon écoute, j'ai besoin de temps là pour réfléchir. Peut-être que ça aurait déjà sauvé la vie à Jean-Baptiste. Imaginons le cas aussi où Hérode demande pardon à Hérodias. Écoute, là, il a fait une promesse... inconsidéré, là, il aurait pu demander pardon à Hérodias. Certes, il aurait perdu la face devant ses invités. Mais s'il avait perdu la face, il aurait sauvé la tête de Jean-Baptiste. Et peut-être même que s'il avait fait ça, il avait demandé pardon à Hérodias, peut-être que même qu'il aurait gagné en respect comme un roi reconnaissant ses torts, sachant reconnaître ses torts. D'autres, en revanche, l'auraient peut-être respecté. Alors la question qui se pose, je crois que tout responsable se l'est posé, n'a-t-on pas le droit de se tromper quand on est un poste à responsabilité? Les présidents de la République ont certainement dû se poser cette question, mais pas seulement. N'a-t-on pas le droit de se tromper? Nous ne sommes que des hommes. Et dans ce cas-là, si vraiment on prend une décision mauvaise, eh bien, cela ne vaut-il pas mieux de revenir sur une mauvaise décision, de changer d'avis? Hérode n'a pas changé d'avis, il avait promis devant tous ses invités. Qu'est-ce qui a motivé Hérode à tenir sa parole finalement et à faire condamner un innocent au final? Rien d'autre que son orgueil et son amour propre. C'est son orgueil. C'est son orgueil qui a empêché Hérode de revenir sur une aussi mauvaise décision. Son orgueil et son amour propre. Il y avait des témoins, il y avait des invités. Alors, vaut-il mieux être un chêne ou un roseau? Le chêne qui ne cède sur rien finit par casser le jour où la tempête devient trop forte. Tandis que le roseau, quand la tempête devient trop forte, il ne cassera pas. Il va ployer, certes, mais il ne cassera pas parce qu'il est fermement enraciné. Alors, être un roseau, ça ne veut pas dire oui à tout et à n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas montrer de la fermeté et céder à tout parce qu'on veut plaire à tout le monde. Mais cette histoire nous apprend que ne pas prendre position et céder à la pression ambiante pour plaire au plus grand nombre sera forcément au détriment d'un innocent. En l'occurrence ici, Jean-Baptiste. Voilà ce que coûte l'indécision. Non seulement ça aura été Jean-Baptiste qui en payera le prix, mais nous avons un autre épisode, un peu plus tard, où quelqu'un d'autre va se retrouver dans la même situation. Il s'agit de Jésus face à Pilate. Le même schéma va se reproduire, cette fois plus tard, mais entre Ponce Pilate et Jésus. Et ironie de l'histoire, Ponce Pilate et Hérode, tous les deux des hésitants qui n'ont pas su prendre position, ils vont se renvoyer tour à tour Jésus. Et le texte, la Bible nous dit même que d'ennemis qu'ils étaient, ils sont devenus amis. Au final, eh bien, ça sera Pilate qui, pour satisfaire la foule, fera crucifier le Seigneur. Le Seigneur qu'il savait très bien innocent, il n'avait rien à reprocher à Jésus. Mais lui non plus, le même problème qu'Hérode, il n'a pas su prendre position. Ce qui le conduira à faire condamner, encore une fois, un innocent. En l'occurrence, le Seigneur Jésus qu'il fera crucifier. Mais Jésus a été plus fort que la mort, il est ressuscité. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que, oui, on peut se tromper, on n'est pas encore parfait, même en tant que chrétien. Et la foi en sa mort et en sa résurrection nous offre le pardon de nos péchés. Si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, comme si tu ne t'es pas encore repenti de tes péchés, Dieu t'invite à le faire. Tu peux le faire seul à seul avec lui, dans ta chambre, et croire qu'il s'est sacrifié pour toi. Alors oui, quand on fait des promesses, c'est important de vouloir tenir ses promesses. Pourquoi ? Parce que Dieu tient toujours ses promesses. Mais on peut se tromper, même si on est chrétien. Alors qu'est-ce qui se passe ? Si on fait une promesse sans réfléchir, qu'on sait être mauvaise, eh bien, grâce au sacrifice de Jésus, on peut s'en repentir. On peut demander pardon à Dieu. Et non seulement à Dieu, on peut aussi demander pardon à la personne à qui on a fait une promesse et qu'on sait qu'il ne vaut pas mieux tenir. Et revenir donc sur une mauvaise décision. J'aimerais terminer avec, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un livre de méditation quotidienne qui paraît trimestriellement, qui s'appelle « Sa parole pour aujourd'hui ». Et je vais lire textuellement ce qu'ils ont écrit, parce que je trouve que c'est pertinent. Je vais terminer par ça. Je vais donc terminer par en citant ce qu'ils ont écrit. Ce sont donc des méditations quotidiennes qui paraissent chaque trimestre. Et voici ce qu'ils disent. L'indécision peut nous conduire à nous sauver d'une situation délicate pour ne pas perdre la face. Veillons à ne pas tergiverser face aux mensonges, aux manipulations et aux pressions, au risque de frapper l'innocent pour nous préserver. Le manque de décision forte et claire entraîne toujours un flou qui n'a rien d'artistique. Et celui qui pensait trouver une solution alternative, conciliante, se fait finalement piéger. Quand on croit trouver un équilibre entre le bien et le mal, on ne devrait pas ignorer que c'est toujours le mal qui finit par l'emporter. Si on pense plaire à tout le monde, on ne plaît à personne. Mais il y a toujours un parti qui en est victime. Forcément, il y a toujours un parti qui en sera victime. Jean-Baptiste en a fait les frais. Jésus aussi. Jean-Baptiste avec Hérode et Jésus avec, pense Pilate. Et Hérode. Je vais prier. Seigneur, je veux te dire merci encore, Père, de nous avoir laissé ta parole. Parfois, Seigneur, c'est vrai qu'on peut être hésitant. On ne sait pas tout, Seigneur, et toi, tu sais tout, et tu ne nous demandes pas de tout savoir. Tu nous demandes de te faire confiance. Seigneur, j'aimerais te demander pardon pour... mes mauvaises décisions, que j'ai pu prendre nos mauvaises décisions. Et aide-nous à prendre les bonnes décisions. C'est pas facile de prendre des décisions, Seigneur. Et pourtant, il faut prendre des décisions. Seigneur, c'est aussi en assumant nos décisions que nous allons grandir en toi. Alors aide-nous, Seigneur, même si on n'a pas tous les éléments, mais on a au moins, Seigneur, ce qu'il faut pour savoir si c'est bien ou si c'est mal. Alors, Seigneur, aide-nous à prendre des bonnes décisions, à ne pas être hésitant, même si on a besoin de temps. Aide-nous aussi à prendre ce temps, avant de prendre une décision importante, qu'on sache nous mettre devant toi, Seigneur, et temporiser quand il faut, et savoir prendre la décision quand il faut la prendre, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour cela, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit, et je te remercie parce que tu ne manques pas au rendez-vous, Seigneur. Tu es là, grâce à Jésus. Alors, Père, je te demande cette sagesse, et... De nous aider à prendre de bonnes décisions et à ne pas faire du favoritisme, Seigneur, à être juste et, Seigneur, à vraiment être à savoir reconnaître ta voix avec ta parole que tu nous as laissée. Donne-nous aussi la bonne attitude lorsque, Seigneur, lorsque on a fait un mauvais choix. Merci parce que tu peux changer le mal en bien. Et Seigneur, il y a toujours une issue. Lorsque parfois on se trouve dans une impasse, il y a toujours une issue. Et je prie que, quand c'est le cas, tu nous aides vraiment à voir l'issue que tu proposes, Seigneur, qui soit dans ta volonté. Garde-nous, Seigneur, aide-nous à garder nos paroles, notre bouche, pour ne pas nous piéger nous-mêmes, Seigneur. Par des promesses inconsidérées. Et pardonne-nous, Seigneur, les promesses qu'on n'a pas su tenir aussi. Et merci, parce que toi, tu tiens toujours ta promesse, celle d'être toujours avec nous. Je veux te remercier au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.